Chapitre 15. Bourg de Castelserre. Une plate-bande de fenouil complète excellemment tout jardin potager. Mais il faut veiller à ce qu'elle ne devienne pas envahissante. Ramenez-les à ses proportions d'origine chaque automne et récoltez les graines avant que les oiseaux aient l'occasion de les éparpiller dans tout votre jardin. Sans quoi, vous passerez le printemps suivant à arracher leurs pousses fines comme de la dentelle. Chacun connaît la saveur sucrée de cette plante, mais on sait plus rarement qu'elle possède des vertus médicinales. La graine et la racine facilitent la digestion, et un nourrisson victime de colique tirera profit d'une tisane de fenouil. Mâchée telle quelle, la graine rafraîchit la bouche, et en cataplasme, elle apaise les orgelets. Sous forme de présent, le fenouil symbolise la force, selon les uns, la flatterie, selon les autres. L'herbier, de Guesserf. Comme Imbre l'avait prédit, je dormis tout l'après-midi et même une partie du début de la soirée. Je m'éveillais dans l'obscurité absolue de ma petite chambre, totalement isolée en moi-même, et la crainte me saisit soudain d'être mort. Je sortis de mon lit, cherchai la porte à tâtons, la trouvai, et l'ouvris à la volée pour me précipiter dehors. La lumière et l'impression de pouvoir enfin respirer librement m'étourdirent. Sire Doré, vêtu de façon impeccable, était assis à son bureau. À ma brusque irruption, il leva les yeux d'un air détaché.
« Ah, enfin debout » dit-il d'un ton aimable. « Du vin, des biscuits ?»
ajouta-t-il en indiquant une table et deux chaises près de la cheminée. Je m'y dirigeai en me frottant les yeux. Divers plats y étaient disposés avec art. Je me laissai choir sur la première chaise que je rencontrais. Je me sentais la langue pâteuse et les paupières collantes. J'ignore ce qu'il y avait dans la tisane d'Imbre, mais je n'ai pas envie d'y regoûter.
Quant à moi, j'ignore de quoi tu parles, ce qui n'est pas plus mal, je suppose.
Il se leva, s'approcha, nous servit du vin, puis me toisa d'un air dépréciateur. Il secoua la tête.
Vous êtes désespérant, Tom Blaireau. Regardez-vous. Vous passez la journée à dormir et quand vous daignez enfin apparaître, c'est les cheveux en bataille, dans une vieille robe chiffonnée. On n'a jamais vu pire serviteur.
Il prit la deuxième chaise. Ne voyant pas quoi répondre, je soulageai ma soif en buvant une gorgée de vin. J'essayai de m'intéresser au plat, mais je m'aperçus que je n'avais pas faim. « Comment s'est passée ta soirée? As-tu dansé avec la grand-veneuse Laurier ?» Il haussa les sourcils, comme surpris et intrigué à la fois par ma question. Soudain, un sourire étira ses lèvres et je retrouvai mon fou.
« Oh, Fitz, tu devrais savoir à présent que je passe chaque instant de mon existence à danser et que je modifie la cadence à chaque cavalier. »
Et toujours habile, il changea de sujet pour demander.
« Te sens-tu en forme ce soir ?»
Je compris où il voulait en venir. Aussi en forme qu'on peut l'espérer étant donné les circonstances, répondis-je.
« Ah, parfait, tu vas donc descendre à Bourg de Castelserre. »
Il connaissait mes pensées avant même que je les eusse conçues. J'aimerais prendre des nouvelles dehors et voir comment se passe son apprentissage, à moins que tu n'aies besoin de moi ici. Il resta un instant à me regarder sans rien dire, comme s'il attendait une suite à mes propos. Puis il déclara
« Va en ville, c'est une excellente idée. D'autres festivités sont prévues ce soir, naturellement, mais je m'efforcerai de me préparer sans toi. Cependant, je t'en prie, tâche pour ta part de te rendre un peu plus présentable avant de quitter mes appartements. » La réputation de Sire Doré est bien assez ternie sans qu'on fasse courir le bruit qu'il emploie des domestiques pouilleux.
J'eus un grognement dédaigneux. J'essaierai. Je me redressai lentement. Mon corps avait redécouvert toutes ses douleurs. Le fou s'installa confortablement dans un des deux fauteuils qui faisait face à la cheminée. Il se laissa aller contre le dossier avec un soupir de satisfaction et tendit ses longues jambes vers la flambée. Je l'entendis m'appeler alors que j'allais rentrer dans ma chambre.
« Fitz, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?»
Je me figeai. « C'est pourquoi il me déplairait d'être obligé de te tuer, » poursuivit-il. Je reconnus une excellente imitation de ma voix et de mes inflexions. Je le regardais, les yeux écarquillés. Il s'était redressé dans son fauteuil et m'observait par-dessus le dossier avec un sourire peiné.
Ne t'avise plus jamais de vouloir ranger mes vêtements. La soie véruléenne, ça se plie soigneusement, ça ne se fourre pas en vrac au fond d'un coffre.
Je tâcherai de m'en souvenir, répondis-je d'un ton mortifié.
Il se rassit et prit son verre de vin.
« Bonne soirée, Fitz, »
me dit-il à mi-voix. Dans ma chambre, je trouvais une de mes vieilles tuniques et des chausses. Je les enfilais, puis fronçai les sourcils. Les choses bâillaient à la taille. Les privations et les efforts constants de notre expédition m'avaient amaigri. Je donnais un coup de brosse à la chemise et contemplais avec désapprobation les taches qui la maculaient. Ce n'était pas elle qui avait changé depuis mon retour à Castelserre, mais mon regard. Elle ne déparait pas dans ma fermette, mais si je devais demeurer au château pour former le prince, j'allais devoir réapprendre à m'habiller en citadin. La conclusion, bien qu'inévitable, me donnait pourtant une étrange impression de futilité. Je me lavais la figure avec l'eau croupie du broc, tentais d'aplatir ma chevelure hérissée avant de renoncer et d'enfiler un manteau. J'éteignis la chandelle. Quand je la traversais discrètement, la chambre du fou n'était plus éclairée que par la lumière dansante du feu. En passant près des fauteuils de la cheminée, je dis « Bonne nuit, fou ». Il ne répondit pas, mais leva une main gracieuse en signe d'adieu et désigna la porte d'un petit mouvement de l'index. Je sortis sans bruit, avec le curieux sentiment d'oublier quelque chose. Le château baignait dans une atmosphère de fête. Chacun s'apprêtait pour une nouvelle nuit de bonne chère, de danse et de musique. Les arches des portes étaient ornées de guirlandes et dans les salles circulait une foule inaccoutumée. La voix d'un ménestrel sortait de la salle mineure, à la porte de laquelle bavardaient trois jeunes gens aux couleurs de bouge. Mes habits usagés et mes cheveux hirsutes m'attirèrent quelques regards curieux, mais dans l'ensemble, je passai inaperçu dans la masse des nouveaux venus et de leurs domestiques, et c'est sans encombre que je quittai Castelserre pour la ville en contrebas. La route escarpée était encore le théâtre de nombreux allées et venues, et malgré la pluie qui tombait sans discontinuer, il régnait à Bourg-de-Castelserre une plus grande animation que d'habitude. Cérémonies et fêtes au château stimulaient toujours le commerce, or les fiançailles de devoir constituaient un événement de première importance, et c'est à travers un flot incessant de marchands, d'artisans et de garçons de course que je me frayais un chemin. Je croisais également des gentilshommes à cheval, et des dames en litière qui montaient se joindre aux festivités nocturnes du château. Quand je pénétrais dans Bourg-de-Castelserre, proprement dit, la cohue devint encore plus dense. Les tavernes étaient bourrées à refus. La musique qui s'en échappait attirait les passants. Et des enfants couraient en tous sens, surexcités par l'atmosphère enfiévrée. Cette ambiance de jour férié était contagieuse, et je finis par me surprendre à sourire, et à souhaiter le bonsoir à des inconnus alors que je me dirigeais vers les shops de Gina. Comme je passais devant une porte cochère, je remarquai un jeune homme qui pressait une jeune fille de rester encore un peu en sa compagnie. Les yeux brillants, un sourire joyeux aux lèvres, elle refusait gentiment en secouant la tête, et ses boucles brunes dansaient. Des gouttes de pluie parsemaient leur manteau comme autant de diamants. Le garçon paraissait à la fois si ardent et si inexpérimenté que je détournais le regard et hâtais le pas. L'instant suivant, mon cœur se serra à l'idée que le prince de Voir ne connaîtrait jamais rien de tel, qu'il ne goûterait jamais la douceur d'un baiser volé, ni l'exaltation mêlée d'angoisse de se demander si la dame lui accorderait encore un moment à sa compagnie. Non, son épouse lui avait été imposée, et il passerait les années tendres de sa vie d'adulte à attendre qu'elle devienne femme. Je n'osais pas espérer qu'il serait heureux. Qu'il ne se rende pas malheureux, voilà tout ce que je pouvais leur souhaiter. Telles étaient mes réflexions quand j'arrivai au bout de la venelle sinueuse qui menait chez Gina. Je m'arrêtai devant la porte, pris d'une soudaine timidité. Les shops étaient fermés, les volets clos, et si l'un d'eux, mal ajusté, laissait filtrer la maigre lumière d'une bougie, cette lueur n'invitait pas à entrer, mais évoquait plutôt l'envie d'intimité des occupants. Il était plus tard que je ne le croyais, et j'allais déranger. Mal à l'aise, je tentai de lisser les épis de ma tignasse en me promettant de rester sur le seuil et de demander à voir heure. Je pourrais l'emmener dans une taverne pour bavarder autour d'une chope. Oui, ce serait bien. Ce serait une bonne manière de lui montrer que je le considérais comme un homme à présent. Je rassemblai mon courage et toquai légèrement à la porte. J'entendis une chaise racler le plancher, le bruit sourd d'un chat qui atterrissait sur le sol, et enfin la voix de Gina derrière les volets.
« Qui est là ?»«
Fit Tom Blaireau, » répondis-je en maudissant ma langue traîtresse. Je regrette de passer si tard, mais je reviens de voyage et je tenais seulement à m'assurer que...
Tom !
La porte s'ouvrit à la volée, coupant court à mes excuses et me manquant d'un cheveu.
Tom Blaireau, entrez ! Entrez donc !
Gina tenait une bougie dans une main, mais de l'autre, elle saisit la manche de ma chemise et me fit entrer chez elle. La pièce baignait dans l'ombre, éclairée principalement par le feu de la cheminée. Deux chaises étaient disposées devant l'âtre, une table basse entre elles. De la tisane infusait dans une bouilloire près d'une tasse vide, et un tricot planté de ses deux aiguilles occupait un des sièges. Gina referma la porte derrière moi, puis m'invita du geste à m'approcher du feu.
« Je viens de préparer du sureau. En désirez-vous une tasse ?»«
Ce serait... Enfin, je ne veux pas m'imposer, je venais simplement voir comment allait Heure et s'il... »«
Attendez, donnez-moi votre manteau. »«
Mais il est trempé. »«
Je vais le pendre ici. Tenez, asseyez-vous. »«
Vous allez devoir attendre, car ce jeune garnement n'est pas encore rentré. »
Pour vous dire la vérité, je songeais depuis quelque temps que, plus tôt vous reviendriez et auriez une bonne discussion avec lui, mieux cela vaudrait pour lui.
Je ne veux pas jouer les commères de village, mais il a besoin qu'on le reprenne en main. Je n'en croyais pas mes oreilles.
Heure ?
Je commençais à m'approcher du feu, mais le chat choisit cet instant pour s'enrôler soudain autour de ma cheville. Je m'arrêtai brutalement et j'évitais de justesse de lui marcher dessus.
« Fais-moi une place sur tes genoux près du feu. »
La petite voix péremptoire retentit clairement dans ma tête. Je baissai les yeux vers l'animal et il leva les siens vers moi. L'espace d'un instant, nos regards se frôlèrent, puis nous les détournâmes l'un comme l'autre par une courtoisie instinctive. Néanmoins, il avait eu le temps de voir les décombres de mon âme. Il frotta sa joue contre ma jambe.
« Prends le chat !» Tu te sentiras mieux.
Je ne pense pas. Il se frotta de façon plus insistante.
Prends le chat.
Je n'ai pas envie de prendre le chat. Il se dressa soudain sur ses pattes arrière et planta ses petites griffes acérées dans mes chausses, jusque dans ma peau.
Pas d'insolence. Prends le chat.
Fenouille, ça suffit. Qu'est-ce que c'est que ces manières ?
S'exclama Gina atterrée. Elle se pencha pour attraper le petit casse-pied à poils roux, mais je me baissai encore plus rapidement afin de le décrocher de ma jambe. Je réussis à me libérer, mais sans me laisser le temps de me redresser, il bondit sur mon épaule. Malgré sa taille, Fenouille possédait une agilité étonnante, et j'eus l'impression, non d'un poids mort, mais d'une grande main amicale posée sur mon épaule.
« Prends le chat, tu te sentiras mieux. »
Je jugeais plus simple de le maintenir en place pendant que je me relevais que d'essayer de l'arracher à son perchoir. Gina, confuse, grondait l'animal, mais je l'assurais que ce n'était pas grave. Elle alla chercher une des chaises disposées face au feu et lissa le coussin dont elle était garnie. J'y pris place et me sentis soudain partir en arrière. C'était un siège à bascule. Dès que je me fus installé, Fenouille descendit sur mes genoux et s'y roula confortablement en boule. Je croisai les mains sur lui, comme s'il n'était pas là, et je lus une expression ironique dans ses yeux en amande à demi fermée.
« Ne sois pas désagréable avec moi, c'est moi qu'elle préfère. »
Il me fallut un petit moment pour retrouver le fil de mes pensées.
« Heure ? » demandai-je à nouveau.
« Oui, Heure, »
répondit-elle.
« Heure qui devrait dormir à l'heure qu'il est, car son maître l'attend demain avant l'aube. Mais où est-il ? Dehors, à traîner avec la fille de maîtresse Merin, qui est beaucoup trop dégourdie pour son âge. Cette Svanja lui tourne la tête. Et même sa mère reconnaît qu'elle serait mieux chez elle, à aider au ménage et à apprendre un métier de son côté.
Elle poursuivit dans la même veine sur un ton qui exprimait à la fois l'irritation et l'amusement. Et l'inquiétude que je percevais chez elle m'étonnait. J'en éprouvais même une certaine jalousie. Heure n'était-il pas mon garçon, et n'était-ce pas à moi de me faire du souci pour lui. Tout en parlant, elle posa une tasse près de moi, nous servit tous les deux, puis se rassit et reprit son tricot. Une fois installée, elle leva les yeux et nos regards se croisèrent pour la première fois depuis qu'elle m'avait ouvert sa porte. Elle tressaillit, puis se pencha pour m'observer de plus près.
« Oh, Tom !»
s'exclama-t-elle d'un ton empreint d'une profonde compassion. Elle se pencha davantage et me dévisagea. Mon pauvre, mais que vous est-il donc arrivé ?
Il est vite comme une bûche creuse quand on a mangé toute la souris.
Mon loup est mort. Je restais moi-même saisi de ma façon brutale d'annoncer la nouvelle. Dina se tut, les yeux braqués sur moi. Elle ne pouvait pas comprendre, je le savais, et je ne le lui demandais pas. Pourtant, comme son silence impuissant durait, j'eus le sentiment de plus en plus fort qu'elle en était peut-être capable, car elle ne se répandait pas en vaines condoléances. Tout à coup, elle lâcha son tricot et posa la main sur mon bras. « Vous arriverez à vous remettre ?» demanda-t-elle. Ce n'était pas une question en l'air. Ma réponse l'intéressait vraiment.
« Le temps aidant, oui, »
dis-je. Et pour la première fois, je reconnus que c'était exact. Malgré l'impression de trahison que me laissait cette idée, je savais que je redeviendrais peu à peu moi-même, et en cet instant, j'éprouvais enfin la sensation que Rolf Lenoir avait essayé de me décrire. La part de loup de mon esprit s'éveilla. « Oui, tu vas redevenir toi-même, et c'est ainsi qu'il doit en être. » J'entendis la phrase aussi clairement que si Œil de Nuit me l'avait réellement transmise. C'était comme ce souvenir, mais plus encore, m'avait expliqué Rolf. Je restais parfaitement immobile pour savourer cette impression, et puis elle s'effaça, et un frisson me parcourut. « Buvez votre tisane. Vous êtes en train d'attraper froid, » me dit Gina. Elle se baissa pour jeter une nouvelle bûche dans le feu. Je suivis sa suggestion, et en reposant ma tasse, j'observais l'amulette suspendue au-dessus du manteau de la cheminée. La lumière changeante des flammes allumait des éclats dorés sur les perles, puis les obscurcissait. Hospitalité. L'infusion était bien chaude, douce et apaisante. Le chat ronronnait sur mes genoux, et une femme me regardait avec affection. N'était-ce que l'effet du charme fixé au mur ? Si tel était le cas, cela m'était égal. Je me détendis encore davantage.
« C'est de câliner le chat qui te remet d'aplomb, »
affirma Fenouille d'un ton suffisant. « Le petit va avoir le cœur brisé quand il apprendra la nouvelle. Quand le loup a disparu, il a compris qu'il vous avait suivi, vous savez. Je me suis inquiété, mais en ne le voyant pas revenir, Heur m'a dit « Ne craignez rien, il est parti rejoindre Tom. » Oh, comme je redoute le moment où vous allez le mettre au courant. Tout à coup, elle se tut, puis elle déclara avec énergie. « Mais avec le temps, comme vous, il surmontera sa douleur. » Elle prit un ton soucieux. « N'empêche qu'il devrait être rentré à l'heure qu'il est. Quelles mesures comptez-vous prendre ?» Je songeais à ce que j'avais été bien des années plus tôt, à Vérité et même au jeune prince. Je songeais au devoir qui nous a fait tous façonner, qui nous avait tous ligotés et qui avait empêché nos cœurs de s'exprimer. C'était vrai. Le petit aurait dû être rentré au bercail et dormir pour mieux servir son maître le lendemain. Il était encore apprenti et son avenir n'avait rien de garanti. Il n'avait rien à faire dehors à conter fleurette à une jolie fille. Je pouvais le reprendre d'une main ferme et lui rappeler son devoir et il m'écouterait. Mais Heur n'était pas fils de roi. Ce n'était même pas un bâtard royal. La liberté lui était permise. Je me laissais aller contre le dossier de mon fauteuil qui se mit à se balancer pendant que je caressais distraitement le chat. « Aucune, » dis-je enfin. « Je crois que je ne vais rien faire. Je crois que je vais le laisser vivre sa vie d'adolescent, tomber amoureux d'une fille, rentrer à des heures indues et se réveiller avec une méchante migraine avant de se faire réprimander par son maître parce qu'il est en retard. » Je me tournai vers Gina. La lueur du feu dansait sur son visage empreint de bonté. « Je crois que je vais le laisser vivre sa vie d'adolescent quelque temps. »«
Pensez-vous que ce soit raisonnable ?»
demanda-t-elle, mais elle souriait en posant la question. « Non. » Je secouai lentement la tête. Je pense que c'est stupide et merveilleux.
Ah, eh bien dans ce cas, voulez-vous rester ici prendre une autre tasse de tisane, ou bien des devoirs vous rappellent-ils d'urgence au château ?
Je n'ai aucun devoir ce soir.
Mon absence ne gênera personne.
Parfait.
Elle me servit avec un empressement flatteur. Vous allez donc demeurer un peu chez nous, où votre absence a été regrettée. Elle but une gorgée de tisane en me souriant par-dessus le bord de sa tasse. Fenouil inspira longuement et son ronronnement s'amplifia.